Vous écoutez, on lit pour vous.
Tout ce qu'il dit sur l'autisme est faux, affirme un psychiatre. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 4 mai 2025 dans la presse. Le secrétaire à la santé aux États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., RFK, multiplie les déclarations erronées sur l'autisme qu'il juge être un trouble évitable qui détruit les familles et dont il prévoit trouver la cause d'ici septembre 2025. Mais qu'en est-il vraiment? Pour distinguer le vrai du faux, rectifions les faits. Est-on vraiment dans une épidémie d'autisme comme l'avance RFK? Il y a définitivement une augmentation énorme du nombre de diagnostics d'autisme. C'est quelque chose sur lequel je suis totalement d'accord, dit le directeur scientifique de l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme, Marc Lanovaz. Il rejette toutefois le terme d'épidémie. Le mot « épidémie » est beaucoup associé aux maladies comme les maladies infectieuses, tandis que l'autisme n'est pas une maladie. C'est une condition. Pourquoi observe-t-on une hausse importante des cas? La forte hausse des cas d'autisme s'expliquait au départ par de meilleurs outils de diagnostic qui ont fait augmenter le nombre de personnes diagnostiquées. Il y a une trentaine d'années, une personne autiste avait peut-être une étiquette d'antisocial, de différent ou de nerd, donne M. Lanovaz comme exemple. Mais dans les dernières années, on a aussi diagnostiqué des personnes qui n'étaient pas réellement autistes, constate le docteur Laurent Motron, psychiatre et sommité international en recherche sur l'autisme. Les critères sont tellement vagues qu'ils incluent parfois des personnes avec un TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, une schizophrénie, un trouble d'apprentissage ou une déficience intellectuelle, dit-il. Le médecin de l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies a commencé à remarquer une hausse des mauvaises références d'enfants il y a 7 ou 8 ans. Il rencontre également beaucoup d'adultes qui consultent pour eux-mêmes, croyant être autistes alors qu'ils ne le sont pas. RFK promet de trouver en quelques mois la cause d'une épidémie d'autisme grâce à une étude de grande ampleur. Que savons-nous des causes de l'autisme? Hors de tout doute, l'autisme est familial, indique le docteur Motron. Or, même si l'autisme est une affection familiale, le fait de l'être ou de ne pas l'être est quasiment aléatoire, précise le spécialiste. Pour l'illustrer, il utilise l'exemple des jumeaux monozygotes, aussi appelés jumeaux identiques. Ils ont le même environnement familial, ils sont élevés ensemble et ils ont les mêmes gènes. Pourtant, il y en a un qui peut être autiste et l'autre qui ne l'est pas, comme pour les gauchers. Le docteur Motron rejette donc l'idée de trouver une cause pour l'autisme. S'il y avait une cause environnementale, comme dit RFK, elle agirait de la même façon sur ses jumeaux. Le spécialiste voit plutôt l'autisme comme une simple possibilité humaine. On ne demande pas la cause des gauchers. On sait juste qu'il y a des gauchers. C'est la même chose pour l'autisme. RFK a déclaré dans les derniers jours que les autistes ne paieront jamais d'impôts, n'auront jamais d'emploi et que beaucoup d'entre eux n'utiliseront jamais les toilettes sans aide. Qu'en pensent les spécialistes? Lorsqu'il a entendu les propos de RFK, le docteur Motron a réagi avec un mélange d'incrédulité et de colère. Oui, il y a des autistes qui sont très difficiles et qui rendent la vie de leur famille très difficile. Mais ça ne concerne qu'un faible pourcentage des cas. Comment quelqu'un avec une telle situation de pouvoir peut-il dire de telles choses? Il y a un niveau d'ignorance et de bêtise qui dépasse l'entendement. Tout ce qu'il dit sur l'autisme est faux, s'exclame-t-il. RFK accuse depuis longtemps les vaccins d'être responsables de l'autisme, une affirmation maintes fois démentie par des spécialistes du monde entier. Mais d'où vient ce mythe? En 1998, un gastro-entérologue britannique, Andrew Wakefield, a faussement montré une corrélation entre le vaccin rougeole-oreillon-rubéole et l'autisme. Ces résultats ont été vastement repris et médiatisés. Bien qu'il ait été démontré qu'il avait falsifié ces données et qu'il avait été radié de l'ordre des médecins britanniques, certaines personnes demeurent à ce jour craintives. Le docteur Motron se souvient d'avoir reçu des menaces de mort lorsqu'il avait contredit ses résultats dans une entrevue dans les médias au début des années 2000. C'était de la folie pure. La majorité des gens le pensaient, dit-il. Bien que ce soit rare, M. Lanovaz constate que certains Québécois continuent de croire à ce mythe. Quels sont les autres mythes fréquents sur l'autisme? L'autisme est causé par l'éducation des parents. Faux. L'éducation parentale n'est pas du tout responsable de l'autisme, soutient M. Lanovaz. Les écrans provoquent l'autisme. Aucun lien scientifique n'a été prouvé entre l'autisme et l'usage des écrans, affirme le docteur Motron. Cela dit, les personnes autistes ont souvent un intérêt particulier pour ceux-ci. Les autistes sont des savants. Certains d'entre eux ont effectivement des talents particuliers ou une intelligence au-dessus de la moyenne, mais d'autres peuvent rencontrer des difficultés importantes, notamment à l'école, explique M. Lanovaz. Les personnes autistes préfèrent être seules. Au contraire, souligne M. Lanovaz, beaucoup d'entre elles souhaitent avoir des amis et des interactions sociales. C'était « Tout ce qu'il dit sur l'autisme est faux », affirme un psychiatre, un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 4 mai 2025 dans La Presse.
Une francophonie littéraire plurielle, un texte de Rose Henriquez, paru le 10 avril 2025 dans La Gazette des femmes. Le courage d'écrire. La francophonie littéraire contemporaine est un espace où les femmes prennent résolument la parole. À partir de territoires et d'héritages culturels divers, elles transforment et réinventent la langue française, mais également la notion même de francophonie. Ce foisonnement d'idées et de voix est habilement illustré dans La francophonie au féminin, un espace à inventer, un ouvrage collectif paru chez Mémoire d'Encrier, sous la direction de Lise Gauvin et Fazia Zouari. Cette dernière est également instigatrice du Parlement des écrivaines francophones, PEF, fondé en 2018. Rassemblant 180 membres de 24 nationalités sur les 5 continents, le PEF s'est donné comme mission de faire la lumière sur la production littéraire de ses membres dans un monde où la voix des femmes a souvent été brimée, sinon interdite. Le livre recense les échanges tenus lors de la 5e rencontre internationale du PEF à Montréal en 2024. À travers une écriture chorale, près d'une vingtaine d'écrivaines y interrogent leur rapport aux multiples visages de la francophonie, naviguant entre déséquilibre linguistique, enjeux politiques et injonctions culturelles. Nous nous attarderons ici à deux thématiques abordées lors de cette rencontre, soit la réalité d'écrire lorsqu'on est une femme et le choix d'écrire en français, une langue faite de paradoxes et indissociable d'un héritage post-colonial. Dans ce même élan, nous insisterons sur le 5e chapitre de l'ouvrage, qui met en scène un procès littéraire fictif où des autrices sont au banc des accusés pour le simple fait d'écrire. une métaphore pour faire découvrir trois autrices francophones, chacune offrant une perspective singulière sur l'acte et le courage d'écrire au féminin et en français. Leur parcours et leurs œuvres résonnent des questions soulevées dans la francophonie au féminin et agissent comme une conversation qui ne se termine jamais tout à fait. Yam Yared, la beauté du geste. Écrire en français m'a sans doute permis de comprendre les enjeux du post-colonialisme et de tout ce qui peut, du français, être historiquement relié à l'hégémonie de la France coloniale et ce que j'en ai fait. Dans le processus d'écriture, j'ai déconstruit les deux. Écrit l'écrivaine libanaise, d'expression française, Yam Yared. Ce faisant, elle se détache d'un bagage post-colonial associé à la fois à la langue et à la francophonie. Une langue qui, selon elle, constitue un espace de liberté dans lequel subsiste une notion d'arabité. Sociologue de formation, autrice d'une dizaine d'ouvrages, récipiendaire de distinctions telles que la bourse d'El Duca de l'Académie française et membre du PEF, Yam Yared s'est toujours attelée à relier l'intime au politique. Écrire, c'est cultiver du lien linguistiquement et ce faisant se retrouver devant l'inévitabilité de lier son « je » à la communauté de « je » qui le concerne. Yam Yared écrit donc à partir de son statut de femme libanaise et place l'émancipation comme thématique importante de son œuvre. Pour parler du féminin et de l'écriture, elle souligne qu'il n'existe pas d'écriture masculine à théoriser, celle-ci ayant toujours été une réalité dominante. Toutefois, elle n'enferme pas son propre travail dans cette seule perspective. L'écrivaine entretient une relation privilégiée avec la maison d'édition québécoise Mémoire d'Encrier, où elle vient de publier son troisième recueil de poésie, Du feu autour de l'œil. Au-delà de son œuvre littéraire, Yam Yared est également une fervente défenseure de la liberté d'expression. En 2012, elle a fondé le Centre PEN Liban, une association culturelle affiliée au PEN International qui vise à promouvoir la littérature libanaise et à lutter contre la censure et l'intimidation. Léonora Miano, Écrire l'Afrique. Toute littérature est politique, écrit Léonora Miano. L'écrivaine camerounaise fait son entrée sur la scène littéraire avec « L'intérieur de la nuit » en 2005, un roman né d'un documentaire sur les enfants soldats au Libéria. Ce livre, loin de faire l'unanimité, offre une vision sans tabou des violences en Afrique. Parmi ses influences majeures figurent Toni Morrison, William Faulkner, Jamaica Kincaid et Aimé Césaire. S'inscrivant dans une pensée du métissage culturel inspirée par Édouard Glissant, Léonora Miano revendique une identité rhizome et multiple. Cette conception traverse son œuvre et se reflète dans sa manière d'aborder les questions identitaires et dans sa revendication d'un dialogue nécessaire entre l'Afrique subsaharienne et la diaspora afrodescendante, pour lequel la littérature doit servir de lien. Cette approche influence également son rapport à la langue. Pour l'écrivaine, qui s'appuie sur la pensée de Felwyn Sarr dans son analyse, écrire à partir d'un centre choisi et non imposé est un acte politique qui transforme l'écriture. D'une part, l'acceptation de toutes les sources auxquelles on s'est abreuvé, d'autre part, le choix d'habiter une certaine réalité, la décision d'en prendre sa part. Le parcours de Leonora Miano est salué par une dizaine de prix et distinctions, dont le prix Goncourt des lycéens, en 2006, pour « Contour du jour qui vient », le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2011 pour l'ensemble de son œuvre, le prix Seligman contre le racisme en 2012 pour « Écrit pour la parole » et le prix Femina en 2013 pour « La saison de l'ombre ». Ananda Devi, un être hybride. Ananda Devi est une figure majeure de la littérature mauricienne d'expression française. Issue d'une société plurielle, elle grandit dans un univers où le télougou, le créole, le français, l'anglais et diverses langues orientales coexistent. Le français, bien qu'appris plus tard, s'impose pour elle comme une stratégie inconsciente de gérer le plurilinguisme en adoptant une langue principale. Pour Ananda Devi, écrire en français n'est pas une simple pratique linguistique, mais un geste de réappropriation. Elle s'emploie à délester la langue de sa charge historique coloniale pour en faire une nouvelle manière d'habiter le monde, de traduire une douleur, notamment en jouant avec les règles grammaticales. L'écriture est un acte d'engagement qui revient à assumer une responsabilité, un choix qui n'est jamais dénué de danger. Cela se ressent dans sa volonté de donner une voix à ceux qui ne peuvent pas parler, tout en demeurant consciente du risque de se substituer à eux. Écrire en tant que femme implique de naviguer dans un état d'enfermement, de négociation et de transformation, car elle se perçoit comme une écrivaine des marges de la production littéraire mondiale, mais aussi comme une personne à cheval entre plusieurs cultures. Récompensée par de nombreux prix littéraires, Ananda Devi a notamment reçu le prix de la francophonie en 2006 pour Ève de ses décombres, le prix Ouest-France en 2018 pour Manger l'autre et le prix Femina des lycéens en 2021 pour Le rire des déesses. C'était une francophonie littéraire plurielle, un texte de Rose Henriquez, paru le 10 avril 2025 dans la Gazette des femmes.
Pourquoi les fictions criminelles sont-elles si populaires? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 avril 2025 dans la presse. Marcel Allais, un lecteur, pose cette question. Pourquoi les séries télé et les films, ayant comme sujet le crime sous toutes ses formes, sont-ils si populaires? Parce que les personnes craignant d'être victimes d'un crime y trouvent des indices pour se protéger. C'est du moins la théorie d'une chercheuse qui a fait des études sur le sujet. La plupart des recherches concluent que les gens sont intéressés par les fictions criminelles parce que ce sont des événements exceptionnels, dit Julie Weist, sociologue à l'Université Westchester en Pennsylvanie. Mais il y a très peu d'études qui ont examiné cet intérêt selon différentes variables personnelles. Mes études ont montré que les gens les plus intéressés sont ceux qui se sentent en danger. Madame Weist s'est intéressée au sujet parce qu'elle a été journaliste pendant 10 ans dans des journaux du Tennessee avant de devenir chercheuse. Dans les journaux, on sait que le crime intéresse les lecteurs. L'une des études publiées par la sociologue a montré à des cobayes 3 articles médiatiques différents sur le même crime. Le premier faisait le portrait du tueur. Le deuxième, celui des 2 victimes, et le troisième, celui du héros qui avait arrêté le tueur. L'article sur le héros était celui qui était jugé le plus intéressant et le seul qui incluait des indices sur la manière de neutraliser un tueur, dit Madame West, qui a publié plusieurs livres sur les médias et le crime. Une autre étude a conclu que les jeunes femmes, statistiquement plus susceptibles d'être victimes d'une agression, étaient plus intéressées par les histoires de crimes. Héroïne. L'attrait pour les films où une héroïne, policière ou non, se charge de démasquer un tueur pourrait être un autre exemple du phénomène selon Madame Weist. D'autant plus que ces héroïnes sont souvent mises en danger par le psychopathe. Les Afro-Américains sont plus susceptibles d'être victimes de violences. Est-ce qu'ils sont eux aussi plus intéressés par les fictions criminelles? L'intérêt est basé sur la perception du risque, souligne Mme Julie West. Les femmes blanches croient à tort être particulièrement à risque. Une autre théorie populaire pour expliquer l'intérêt des femmes, car les fictions criminelles intéressent beaucoup plus les femmes que les hommes, est l'attrait du voyou, bad boy. Mme West pense que cette théorie n'est pas incompatible avec la sienne. On peut aussi penser aux femmes qui correspondent avec les tueurs emprisonnés. C'est une manière très sûre d'interagir avec un homme dangereux, peut-être de glaner des informations sur ses crimes. Il est en prison, après tout. Peter Morrall, un psychologue de l'Université York en Angleterre, qui a publié plusieurs essais sur la question de la fascination du public pour les crimes, est éberlué par l'intérêt plus important chez les femmes que chez les hommes. Dans mes cours sur cette question, 95% des étudiants sont des femmes, dit M. Morrall. C'est sûr qu'il y a plus de femmes en psychologie, mais le déséquilibre n'est pas aussi élevé. En savoir plus. Source, Fondation canadienne des femmes. 30% proportion des femmes canadiennes ayant subi des violences sexuelles durant leur vie. Cette part est de 8% chez les hommes. 500% les Canadiennes de 15 à 24 ans sont 5 fois plus à risque d'être victimes de violences que celles de plus de 24 ans. Source Statistiques Canada. 25% proportion des personnes accusées de crimes au Canada qui sont des femmes. C'était « Pourquoi les fictions criminelles sont-elles si populaires ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 20 avril 2025 dans La Presse.
Les récompenses d'Hydro-Québec peinent à convaincre. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 17 avril 2025 dans Le Devoir. Séduits par la promesse d'économie sur leurs factures d'électricité, de plus en plus de Québécois acceptent de lever le pied sur leur consommation durant les grands froids. À l'hiver 2024-2025, 400 000 ménages ont participé au programme de tarification dynamique d'Hydro-Québec, un chiffre en hausse, mais qui ne représente qu'une fraction des 4,3 millions de clients résidentiels de la société d'État. Comparé à l'hiver 2023-2024, le nombre de participants résidentiels à l'une des trois options offertes, soit le crédit hivernal, le tarif Flex D et ILO, a augmenté de 18 % d'après les récentes données d'Hydro-Québec obtenues par Le Devoir. En réduisant leur consommation d'électricité lorsque le réseau était le plus sollicité, les participants ont permis à Hydro-Québec une réduction moyenne de 530 MW par période de pointe, soit 30 fois pendant l'hiver. Ça équivaut à l'alimentation de 70 000 résidences. Au total, les quelques 400 000 participants au programme de tarification variable ne représentent toutefois que 9 % des clients d'Hydro-Québec. Du côté de la société d'État, on voit chaque gain comme une victoire. on est satisfait de voir que de plus en plus de clients s'inscrivent à nos offres et participent à cet effort collectif. C'est même une année record pour ILOU. On a presque doublé le nombre de participants, souligne le porte-parole Sandrix Bouchard. C'est un système gagnant-gagnant, poursuit-il, particulièrement pour les clients ILOU cette année. En acceptant le défi de baisser leur chauffage lors des pointes de consommation, les 60 000 participants ILOU ont touché en moyenne 200 $ de récompense pour la saison hivernale. En 2024, les quelques 35 000 adhérents au programme avaient reçu en moyenne 135 $. Le crédit hivernal, bien qu'étant toujours l'option la plus populaire, a perdu 10 000 adhérents cet hiver, passant de 270 000 à 260 000. En moyenne, les participants ont réduit leur facture de 109 $ contre 63 $ en 2024. Cette option propose aux clients un crédit lorsque leur consommation est à la baisse durant les périodes de pointe, soit environ 56 sous pour chaque kilowattheure non consommée. Le tarif Flex D a, lui, gagné en popularité et compte désormais 80 000 participants contre 34 000 l'hiver passé. Hydro-Québec n'a pas encore calculé combien d'argent les adhérents ont économisé. En 2024, cela représentait environ 118 $ par personne. Cette option offre un tarif réduit pendant toute la période hivernale, mais applique un tarif élevé lors des événements de pointe. À noter que les entreprises peuvent aussi adhérer au programme de crédit hivernal et au tarif Flex D. Elles étaient 2000 cette année, soit 500 de plus que l'année précédente. Au total, elles ont permis de déplacer 1800 MW par période durant l'hiver, soit la consommation de 240 000 résidences. Au moment d'écrire ces lignes, Hydro-Québec n'avait pas encore comptabilisé le montant d'argent qui a été dépensé au total pour récompenser les participants à la tarification variable. En 2024, ce coût s'élevait à 15 millions. M. Bouchard précise d'ailleurs que l'hiver 2023-2024 avait été particulièrement clément, avec seulement 19 périodes de pointe. Cet hiver, on en a eu 30. Il a fait bien plus froid, ajoute-t-il, précisant que la demande maximale d'électricité est survenue le 22 janvier 2025 et a atteint 42 000 MW. C'était Les récompenses d'Hydro-Québec peinent à convaincre, un texte d'Annabelle Caillou paru le 17 avril 2025 dans Le Devoir.